Voilà, comme j'aime commencer ces derniers temps, avant de prêcher, je suis Romaric Ganga. C'est ça. Ma femme a été éduquée. Romaric Ganga, homme fort et puissant. Et ce n'est pas juste une déclaration, et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et ce matin, pour certains, si je dis je suis homme fort et puissant, ça vient certainement bousculer soit votre théologie, soit tout simplement votre manière de penser en disant, mais de quoi il parle? Pourquoi il se présente comme ça? Qui est-il pour qu'il puisse oser dire qu'il est un homme fort et un homme puissant? Mais je veux le déclarer, je veux le redire. Si vous êtes agressé en ce moment même, à la fin vous serez littéralement très agressé, très irrité, parce que je suis un homme fort et puissant, parce que Jésus-Christ a touché ma vie, Jésus-Christ a transformé ma vie, parce que j'ai eu la rencontre avec un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Il m'a pris de la boue du péché. J'étais un homme qui était loin de lui, mais lorsque je l'ai rencontré, j'étais dans toutes sortes de choses mystiques et je servais le diable. J'ai touché à la puissance du diable. Mais laissez-moi vous dire que lorsque j'ai touché à la puissance de Dieu, quand j'ai servi le diable, je ne me suis jamais présenté comme étant homme fort et puissant. Mais maintenant que je sers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je te le dis que je suis serviteur de Dieu et je suis Romaric Ganga, homme fort et puissant. Dis à quelqu'un de toi, l'homme fort et puissant va te parler au nom de Jésus. Et vous savez, en fait, ça a été un combat pour moi. C'était un combat pour moi pendant des années d'assumer qui j'étais. Et d'assumer même ce que Jésus a fait en moi. Le problème de l'Église moderne, et l'un des problèmes majeurs, c'est qu'elle n'assume pas ce que Christ a fait. Et pendant longtemps, je n'assumais pas ce que Christ a fait dans ma vie. Pendant longtemps, je me posais cette question, mais qui je suis réellement? Ou même si je découvrais une partie de mon identité, mais je la rendais tellement misérable. La puissance misérable. Christ m'a changé, Christ m'a transformé, mais il ne faut pas trop que je le dise, de peur qu'on dise que je suis orgueilleux. Ça parle à quelqu'un? Il ne faut surtout pas que je ne le mente trop. Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et le diable nous tient dans sa main en nous enfermant dans des systèmes de pensée et qui nous rend misérables et qui rend misérable l'évangile. Mais je veux te le déclarer ce matin. Je suis là et je me suis préparé. Je me suis tenu devant Dieu pour que je ne puisse pas te livrer un message qui va caresser le diable, mais un message que l'ennemi va être tellement confus dans sa tête, il va fuir loin de toi parce que tu vas retrouver ton identité en Jésus-Christ. Et une des choses, et je ne veux pas vous choquer ce matin, pendant qu'on préparait, je nous regardais habillés. Et jamais je le fais, et jamais je me compare. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, la manière dont on s'est préparé même pour venir, donne une indication de comment on se voit. Ça va brasser un peu. Je prépare. J'aime être beau, bien habillé. Beau, c'est plutôt subjectif. Mais bien habillé, je peux le dire, c'est aussi subjectif. Mais j'aime me préparer pour le roi des rois. Parce que je sais qui je suis. Et comment on se prépare le dimanche matin ou dans la semaine montre la valeur que l'on attribue à la créature que nous sommes. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament et lorsqu'on regarde même toute la parole de Dieu, et plusieurs sont parfois choqués de l'importance de l'or, de l'importance de comment Dieu met l'emphase sur son temple. Mais Dieu n'a pas de problème avec le fait d'embellir sa maison, parce que ça représente qui il est. J'aimerais te dire une chose. N'aie pas un problème avec le fait d'aimer bien t'habiller. Si tu le fais avec des motifs pour honorer ton Créateur. N'aie pas honte de venir dimanche en disant « Jésus, ça a coûté le sang de Jésus. Et Jésus est venu me chercher. » N'aie pas honte de mettre le prix, de payer le prix pour des beaux vêtements, pour dire « Je sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux le rencontrer, le célébrer avec mes frères et mes sœurs. » N'aie pas honte de te regarder devant la glace et de dire comme David, « Je suis une créature si merveilleuse. » N'aie pas honte de te regarder et de dire, on n'a tellement pas de problème à dire peut-être pour les autres, « Waouh !» mais de te regarder et de dire, « Waouh ! Jésus, tu as quitté ton ciel de gloire pour moi. Waouh !» Que le diable soit fracassé parce qu'il attaque ton identité ce matin dans le nom de Jésus. Qu'est des waouh ce matin en se regardant. Parce que quand tu as un waouh dans ta vie pour qui tu es, tu peux prier avec autorité et tu peux prier avec assurance. Et le titre de mon message, c'est « En mouvement avec assurance ». Parce que l'Église est en mouvement. Le problème, ce n'est pas toujours qu'on ne bouge pas. Le problème, ce n'est pas toujours qu'on n'avance pas. Le problème, ce n'est pas toujours qu'on n'a pas de percée. Le problème est, dans notre marche chrétienne, l'ennemi nous vole notre assurance. Pour ceux qui ont connu le Seigneur, ça fait un petit moment, ou même pour les plus jeunes, vous savez au fond de vous-même, cette chose que vous avez lorsque Dieu vous a touché, cette assurance que vous aviez pour parler de Dieu, pour cette assurance que vous avez même dans la prière. Une des choses que l'ennemi vole, dès que tu pêches, quand tu t'éloignes, tu te présentes devant Dieu, tu es, Seigneur, est-ce que tu peux encore m'écouter? Est-ce que ce matin, le Seigneur va encore poser son regard sur ma vie? Est-ce que ce matin, Dieu va encore tendre son oreille? La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Vous savez, je crois réellement que l'humanité ne peut pleinement se manifester sans véritable compréhension et manifestation de qui on est réellement en Christ. On a trop parlé de l'humilité en le déconnectant de réellement de la compréhension de qui on est en Christ. Si tu veux réellement être humble, et si tu dois réellement être humble, ne le déconnecte jamais de comment Christ s'est manifesté dans ta vie et de ce que Christ a fait de toi. Si l'humilité pour toi, c'est être misérable, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas du tout l'humilité. Et on va le voir, je ne parle pas d'arrogance ce matin. L'orgueil, en fait, c'est à propos de ce que je pense être. Bon ou pas bon? La question ce matin, ce n'est pas ce que tu penses. L'humilité, c'est à propos de ce que Dieu dit que tu es. Alors, moi je te le dis, si Dieu dit que je suis homme fort et puissant, je suis humble. Si Dieu le dit de moi et que je le dis. Romaric veut dire littéralement homme fort et puissant. Et j'ai prêché plusieurs messages, deux messages sur Dieu change ton nom. Et j'avais demandé, est-ce qu'on puisse prier si Dieu peut-être allait déposer un nom dans la vie de certains. Et moi, je n'avais pas reçu. Non, Dieu m'a dit, je vais te rappeler, je te le dirai dans l'année. Et un jour, pendant qu'on préparait une célébration, on priait, et Dieu m'a dit, je renouvelle ton nom, je veux que tu te réconcilies avec ton prénom et que ton nom de famille, Romaric, littéralement homme fort et puissant, Nganga, qui veut dire voyant, serviteur de Dieu. Et ça a été comme un renouvellement. Et Dieu m'a dit, réconcilie-toi avec ton nom, parce que c'est qui tu es. Ce matin, j'aimerais te dire qu'en Christ, tu peux avoir de l'assurance. Lorsqu'on lit ce texte, on peut tellement spiritualiser les choses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On peut mettre l'accent sur le fait de s'approcher de Dieu. On peut mettre l'accent sur le fait de prier. On peut mettre l'accent sur le fait de jeûner. On peut mettre l'accent sur le fait même, lorsqu'on fait un appel, de venir devant. On peut mettre l'accent sur le fait de chercher Dieu. Mais en fait, le mot pour moi clé de ce passage, ce n'est pas juste s'approcher de Dieu. C'est comment on s'approche de Dieu. Parce que la Bible déclare de s'approcher de Dieu avec assurance. La Bible nous dit que je sers et que je puisse servir Dieu avec assurance. La Bible dit que lorsque je me présente devant l'ennemi qui vient m'attaquer, que je le fasse avec assurance. Lorsque je lève mes mains, que je crie à Dieu, je le fais avec assurance. Lorsque je témoigne de Jésus, je le fais avec assurance. Lorsque je m'habille, je le fais avec assurance. Lorsque l'on m'attaque et je réponds au nom de Jésus, je le fais avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui est en train de se regarder misérable? Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux lire ta Bible, tu peux être chrétien, ça fait des années. Mais si tu t'approches de Dieu sans assurance, il y a un problème. Il y a un problème. Le comment est très important. Et le mot assurance nous parle de liberté de parole à l'époque. Et ce qui c'est compliqué, c'est difficile d'avoir cette même liberté de parole. Il y avait une résistance. Et ceux qui étaient vraiment libres de parler, de dire ce qu'ils pensaient, faisaient face à une persécution. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Aujourd'hui, la liberté d'expression, dès qu'on est attaqué, il y a des mouvements sociaux. Et à l'époque, tu ne disais pas tout ce que tu pensais. Et Paul utilise un mot pour dire que tu t'approches de Dieu en n'ayant pas peur de ce que l'on va penser de toi, de ce que l'on va dire sur toi, que tu puisses prier en n'ayant pas peur des autres ou même de dire, mais juste de ce que Dieu dit. Combien réellement vous avez loué ce matin en pensant uniquement à Dieu? Combien ce matin vous avez réellement loué en disant, peu importe celui qui est à ma gauche, peu importe celui qui est à ma droite, peu importe ce que les autres vont penser, je suis là pour te louer Seigneur. Combien réellement ce matin se disent que tous les jours de ma vie, lorsque je sors, lorsque je vis en tant que chrétien, je n'ai pas peur de ce que les autres vont dire. Parce que je sais en qui je crois. Je connais mon Dieu. Je connais ce qu'il a fait. Combien ce matin, peut-être vous êtes loin de Dieu. Et vous dites que quand je m'approche de Dieu, mais non, j'ai tellement peur. Je me suis tellement éloigné. Même dans ce cas-là, même quand tu t'es éloigné, même lorsque tu as trahi Dieu, même lorsque tu as blessé le cœur de Dieu, même lorsque tu t'aimes peut-être pas, la Bible dit que malgré cela, tu t'approches du trône de la grâce avec assurance parce que tu vas rencontrer un Dieu qui t'aime, un Dieu qui t'ouvre les mains, un Dieu qui veut t'accueillir, un Dieu qui veut te changer, un Dieu qui veut te bouleverser, un Dieu qui veut te remplir. Après la prison et après que les autorités religieuses les interdisent de parler de Jésus, voilà la prière des apôtres, des disciples. Acte 4, verset 29. Ils ont été malmenés, persécutés, leur prière, acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Parce qu'ils ont discerné que ce qui était attaqué, c'est l'assurance. Moi, je te dis une chose. Si tu regardes au fond des fonds de ce que tu viens de vivre, déception, autre, persécution, des illusions. Ce qui est attaqué, c'est ton assurance. Et il y a toutes sortes de lois, il y a toutes sortes de choses que parfois dans lesquelles on vit. Ce qui est attaqué, c'est notre assurance. Et si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire? Et si je m'habille comme ça, on va dire bling bling. Et si je parle un peu d'offrande et que je cite un passage biblique, on va dire que je suis un pasteur qui veut se tirer de l'argent. C'est toujours un problème d'assurance. Et si je parle et je témoigne, on va dire que tu as tout le temps Dieu dans ta bouche. Et si je rends grâce avant le repas, on va dire que je suis religieux. On ne prie plus pour les repas. Problème d'assurance. Le diable attaque ton assurance. Et il y a des menaces. Il y a la persécution, il y a toutes sortes d'affaires. Et la réaction des apôtres, c'est: Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. C'est-à-dire pour eux, on n'annonce pas la parole sans assurance. Ce n'est pas juste annoncer la parole, ce n'est pas juste témoigner, ce n'est pas juste libérer quelque chose, ce n'est pas juste prier. Je veux prier comme, et c'est la réalité, avec un Dieu tout-puissant. Je veux présenter Jésus comme réalisant ce qu'il a fait pour moi. Et pourquoi l'ennemi prend et gagne tellement de terrain? Nous avons autour de nous des petits papiers qu'on nous donne de marabout, de je ne sais pas quoi là. Ils le font avec assurance. Et nous, au nom de Jésus. L'église est timide, on intercède, on n'a plus d'assurance. Est-ce que Dieu va m'exaucer? Et si je sers, est-ce que je serai déçu? On n'a plus d'assurance. Et Dieu me disait, le problème de l'église moderne, c'est de faire tellement de choses, même spirituelles, sans assurance. Alors, je me réconcilie avec le fait que je suis un homme fort et puissant. Peu importe les circonstances, peu importe les menaces, parce que la menace et l'intimidation viennent attaquer mon assurance. Et je ne veux pas et je ne veux plus prier sans assurance. Je ne veux plus témoigner sans assurance. Je ne veux plus prêcher sans assurance. Et ça n'a rien à voir, ça c'est l'expression, parfois je suis un peu excité, ça n'a rien à voir avec le ton de la voix. Parce qu'on peut parler fort, mais ne pas du tout avoir de l'assurance. On est d'accord, hein? Je ne vous dis pas que maintenant vous devez prier pour dire je suis assuré. Non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un homme et d'une femme qui sait en qui il ou elle a cru. Même si tu as un temps fait, même si tu as une voix, mais tu es assuré. Tu as de l'assurance. Quand l'ennemi te voit, il dit ouh, il y a de l'assurance. L'ennemi fuit lorsqu'il y a de l'assurance. Ça a un rapport avec la conviction. C'est un rapport avec la foi, on va le voir. On ne peut pas parler de la foi sans la ferme assurance. Paul va dire, priez pour moi, Éphésiens 6, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Deux fois dans le même verset, c'est beaucoup quand même. Parce que lui, il avait compris que tout doit se faire avec assurance. Pour Dieu. Parce que je sais qui est Dieu. Et Dieu ne nous demande pas donc juste de nous approcher, mais Dieu nous demande de nous approcher avec assurance pour obtenir. Pourquoi? Mon premier point après cette courte introduction. Nous n'obtenons pas parce que nous manquons d'assurance. C'est ça la réalité. Approchons-nous. Donc, avec assurance, trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. C'est quand même hallucinant. Dieu est en train de dire, je ne veux pas juste que tu t'approches de moi pour chercher la miséricorde, mais je veux que tu le fasses d'une certaine manière. Ma miséricorde est relâchée et connectée au fait que tu vas t'approcher avec assurance. Et le mot « obtenir », je l'utilise souvent, vous avez fini par le connaître par cœur. Là, c'est saisir, lambano. C'est un mot qui parle même de violence. Je saisis, je tends ma main pour tirer vers moi la miséricorde. Et tout est connecté dans la parole. C'est pour ça que je crois, entre autres, que Jésus dit que le royaume de Dieu est là et c'est comme des violents qui s'en emparent. Dieu est miséricordieux. Mais peu importe ce que tu as fait, ce matin, approche-toi avec assurance pour t'emparer de sa miséricorde. Et j'avais vraiment, on en parlait avec mon amoureuse ce matin, et ça me revenait la parabole du fils prodigue. Et le fils qui est dans la maison, et qui va un peu bouder, le père, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tout ce qui est à moi est à toi. En fait, si on a l'assurance, il y a des choses qu'on ne demande plus. On les obtient, c'est parce que c'est à notre portée. On saisit. Et le diable nous vole l'assurance. Pourquoi le but, c'est quoi? Parce que quand tu n'as plus d'assurance, tu dis que ce n'est pas à toi. Tu ne saisis plus l'arme. Tu ne saisis plus tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais quand tu as l'assurance et que tu sais que tu es un fils de Dieu, oui, parfois tu peux t'éloigner, parfois il y a des chutes. Je ne prêche pas le fait de chuter tout le temps, mais je parle de cette position spirituelle qui, malgré mes chutes, je suis un fils dans la maison et je me sers de ce que Dieu m'a donné. Je me sers de ce que Christ a remporté. Parce que Christ est mort à la croix. Et il a écrasé toutes les dominations, les autorités. Il les a livrées, la Bible nous dit, publiquement en spectacle. Et on a tellement de choses autour de nous. On en a. Mais nous n'avons pas d'assurance et nous ne pouvons pas obtenir. Je ne le mérite pas. Combien de fois on a entendu ça? On l'a dit peut-être dans notre vie. Je ne mérite pas. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de mériter, c'est là. C'est disponible. Et j'annule dans le nom de Jésus toutes les paroles que tu as prononcées sur ta vie en disant que je ne mérite pas. Aie de l'assurance. Aie de l'aplomb spirituel. Tu es enfant, fils, fille du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a tout à sa disposition. Il a mis tout ça pour toi. Et si tu as besoin de pardon, sers-toi du pardon. Si tu as besoin de guérison, sers-toi de la guérison. Si tu as besoin d'espérance, sers-toi de l'espérance. Et arrête de crier à Dieu avec le sentiment qu'il ne va jamais t'écouter, que tu n'es pas digne. Quand tu fais ça, l'ennemi a gagné. L'assurance nous permet d'obtenir miséricorde. Paul va dire, 2 Corinthiens 3:12, « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. » Puisque nous avons une telle espérance, nous pouvons avoir une grande assurance. Et quand on lit le contexte, c'est puissant. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé dans les lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. » Il y avait une gloire passagère. Même si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Dis ça, c'était passager. Par contre, comprends ce qui va venir là. « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Une autre version, la version Passion nous dit, « Pourtant, combien plus rayonnant est ce nouveau et glorieux ministère de l'Esprit qui brille... » Écoute Manu, c'est beau ça. « Qui brille à partir de nous. Pourquoi je ne dirais pas que je suis glorieux ?» Dieu n'a pas du mal à dire par Paul que le ministère, le nouveau ministère de l'Esprit, la nouvelle alliance, elle est glorieuse à travers moi. Qui suis-je pour dire que je ne suis pas glorieux? Qui suis-je pour dire que ce ministère, que l'œuvre de Dieu n'est pas glorieuse en moi? Si Dieu n'a pas du mal à dire que ce que nous vivons actuellement, cette nouvelle alliance, elle est glorieuse. Pourquoi je veux rendre l'évangile misérable? Hébreux 10, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. » Écoutez-moi bien. La grande récompense est connectée à l'assurance. Nous obtenons peu parce que nous avons peu d'assurance. C'est tout simple. Il ne faut pas abandonner cette assurance à laquelle est attachée. En fait, l'assurance, quand tu as l'assurance, tu as la grande récompense avec. C'est attaché. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je prie ce matin que tu puisses retrouver ton assurance en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as péché, reviens à lui. Que tu puisses retrouver ton assurance. En retrouvant ton assurance, tu retrouves ta récompense. Tu retrouves tes promesses. Tu retrouves tout ce que Dieu a à ta disposition pour toi, pour ta vie. Quand tu manques d'assurance, tu manques de persévérance. Et parfois, nous ne tenons pas. Parce que justement, nous voulons avancer avec nous voulons avancer, pardon, sans assurance avec Dieu. Quand tu veux avancer sans assurance, je t'annonce une chose, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Ce qui nous fait tenir, et la Bible est claire, c'est lorsqu'on a cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je crois que vous n'avez pas capté que si nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous possédons déjà. Déjà, il faut avoir l'assurance qu'il nous écoute. Toute une question d'assurance. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, ce matin je brise tous ces mensonges de l'ennemi qui te dit que Dieu n'écoute plus, que Dieu est fatigué, que Dieu est bouché d'oreilles. Je brise tous ces mensonges qui te disent, oh la prophétie, bah encore une prophétie, ça sert à quoi? Je brise tout cela. Je brise tout cela parce que même la voix prophétique a été attachée. Et lorsqu'une parole prophétique est relâchée comme ce matin, il y en a dans l'esprit qui disent, oh, encore une parole, elle cause toujours. Et on étouffe la voix de Dieu, on perd l'assurance. Mais laisse-moi te dire que quand tu as l'assurance et que tu reconnais la voix de Dieu, l'ennemi peut venir devant toi et avec l'arme de la parole, tu peux le dégager dans le nom de Jésus. C'est ça quand tu as l'assurance et que tu gardes ton assurance. Et cette assurance, et lorsque nous l'avons, nous savons qu'il nous écoute. Et lorsque nous savons qu'il nous écoute, nous, quelque chose que nous lui demandons selon sa volonté, nous savons déjà que nous possédons. C'est ça l'assurance. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Deuxième point. Nous manquons de faveur parce que nous manquons d'assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, cette faveur de Dieu, ce soutien de Dieu pour être secouru dans nos besoins. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec assurance, on peut trouver. Le mot trouver, là, c'est... C'est pas juste, j'ai trouvé la grâce. Le mot trouver, c'est quelqu'un vraiment qui a fait un effort, comme un scientifique qui a fait des recherches pour trouver quelque chose de précieux. Ça commence juste par quelqu'un qui a de l'assurance. En fait, quand tu as de l'assurance, tu déclenches un processus spirituel pour faire des découvertes, comme un scientifique ferait des découvertes. J'avais pas vu ça. Génial! L'assurance déclenche des feux d'artifice de génial. Et c'est ça qui dérange l'ennemi. C'est pourquoi quelqu'un qui a de l'assurance dérange ceux qui sont ensemble. Oh, il est orgueilleux. Oh, mais qu'est-ce pour qui il se prend? Parce que celui qui a de l'assurance, il dérange. Celui qui a de l'assurance va faire bouger les lignes. Celui qui a de l'assurance va trouver des choses, va trouver grâce. Il y a la faveur de Dieu sur sa vie. Celui qui a de l'assurance provoque des questionnements. Les gens vont dire, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce qui est bizarre, ce qu'on ne dit jamais, c'est bizarre pour quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance trouve ça normal. Commencez à avoir un peu d'aplomb d'assurance. On va dire, oh, calme-toi. Mais si tu commences à prier, ouais, Seigneur, tu vois, tu as dit que si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à toi, non, tu accordes. Alors, Seigneur, oui. Personne ne va vous dire, frère, bouge-toi un peu là. Personne. Parce que ça correspond à tout le monde en fait. Nous sommes le miroir des uns des autres. Mais quand on commence à voir quelqu'un qui est un peu excité, au nom de Jésus, carabacarasson de coro. Et là on se dit, qu'est-ce qui lui arrive? Et même parfois quand tu as trop d'assurance, on dit quelque chose tourne pas rond. C'est complètement l'inverse en fait. Et le diable nous tient avec ses raisonnements. Je n'ai pas d'assurance parce que je n'ai pas envie de passer pour un fou. Alors, c'est très compliqué d'en parler ce que je vais dire en ce moment même. Enfin, très compliqué. C'est très compliqué pour nous. Une des choses que l'ennemi a réussi d'attaquer, et je veux dénoncer cela, on va pas y... je sais que les mentalités ne vont pas changer jour en jour. Si je dis... prophète Matthieu, cache dans les pensées. Pourquoi on ne l'appelle pas juste pasteur? Voilà, c'est bon, il se l'appelle. Pourquoi pas juste Matthieu Gatté? Et pourquoi pas, je vais dire ce que Dieu dit qu'il est. L'ennemi a tellement réussi qu'aujourd'hui, même les ministères, quand quelqu'un lit de la louange, dit leader, louange, ça gêne personne. Le mot leader, ça gêne personne. D'ailleurs, le mot leader, c'est très bon. Ça gêne personne. Leader, louange. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Mais un mot leader, louange, par exemple, ça n'existe pas. Leader, louange. Par contre, pasteur, c'est dans la Bible. Prophète, c'est dans la Bible. Apôtre, c'est dans la Bible. Oh, si quelqu'un dit apôtre! Oh! Paul, lui, quand il écrit, il dit carrément apôtre de Jésus-Christ. Frère, calme-toi. Seigneur. Mais ça, vous savez quoi? L'orgueil, ce n'est pas reconnaître ce que Dieu fait. Et ça nous enferme. Vous savez, enfin, le point le suivant, ce n'est pas juste une question de titre. Ce matin, j'ai réfléchi à ça. Je dis, Seigneur, ce n'est pas qu'une question de titre. C'est une question que lorsque l'Église capte ça, tu te mets à la disposition du don. Est-ce que tu attends d'un pasteur la même chose que tu attends d'un prophète? Parfois oui, mais souvent non. Mais si tu appelles tout le monde pasteur, parce que c'est bien. Et moi le premier, je sais qu'il y a des abus. Et moi le premier, surtout chez nos amis africains, je suis très bien placé pour en parler, il n'y a pas de souci. Parfois, ce n'est pas un titre, c'est grand serviteur de l'Éternel, de la gloire, le prophète. Ok. Parfois, il y a un peu. On peut en réduire un peu de nom. Je vous l'accorde. Mais le nombre de fois que j'ai critiqué, on a dit prophète, un tel, ou apôtre, Dieu, ah, c'est bon, voilà, un peu ça. Mais si il est ça, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi je suis gêné par comment quelqu'un se présente? Est-ce qu'on est gêné lorsque ton responsable, tu reçois un mail de ton responsable, directeur des ressources humaines? Yo, frère, calme-toi. En fait, le gars va rien comprendre, il va dire, mais tu as un souci en fait. Mais il va dire, je suis directeur des ressources humaines. Pourquoi l'Église est choquée si vous recevez un message de quelqu'un qui dit prophète de l'Éternel? Appointé, bien sûr, par Dieu et confirmé. Comprenez ce que je veux dire? Si on arrive à être détendu avec ça, quand on dit, oui, c'est le prophète qui parle, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste, ça crée un environnement de crainte de Dieu et d'attente spirituelle. L'ennemi sait que cet homme est reconnu par ceux qui sont là et spirituellement, nous obtenons des faveurs. Nous n'obtenons pas des faveurs parce qu'il n'y a pas cette assurance des titres que Dieu donne, des appointements spirituels que Dieu donne. On ne veut même pas les voir. Et on colle de suite orgueil. Seigneur, aide-nous. Et nous ne trouvons pas la grâce. Nous sommes appelés à trouver. Et Dieu me disait ce matin clairement, il y a des percées qui sont connectées à l'assurance. L'assurance de mon identité, mais l'assurance de l'identité de l'autre. Il y a des percées que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas cette assurance. Nous sommes tout le temps en train de dire, il faut rester humble. Non. Quand tu as l'assurance, tu es fier de ton église. Regardez jusqu'où ça va. Et là, je ne parle pas de manipulation, là, les amis. Je parle juste de la renommée de Jésus qui se répandait de lieu en lieu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient dire, ouh, moi j'ai rencontré Jésus, viens l'écouter. Quoi. Pourquoi il y avait des foules? Parce qu'il y avait la renommée. Aujourd'hui, c'est quoi? Parle pas trop de l'église, parle de Jésus. Quoi? Et l'église locale. On n'est même plus fier de son église locale. Dis-moi, si tu es fier de ton église locale, parle de Jésus, parle de ton église locale. Et il y a toutes sortes de choses comme ça qui se mélangent. On a perdu d'assurance. Non, je ne veux pas trop parler de ça. Je ne veux pas trop parler de mon pasteur, parce qu'il ne faut pas que je parle de l'homme. Et ça crée un mouvement de gens qui vont à gauche, à droite, qui sont déconnectés, individualistes. Je suis fier de mon église locale. Elle n'est pas parfaite, mais je suis fier de mon église locale. Et si je dis ça aux gens, je donne envie aux gens de s'attacher à une église locale. On a plus d'assurance à casser des églises locales. Là, il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne. Hein. Autour d'un repas, tu peux casser des pastors, tu peux parler de ce que tu as vécu dans le passé. Ça ne dérange pas. Mais dès qu'on est dans le groupe, il y en a un qui va dire « Oh, mais moi, j'aime mon pasteur. Oh, arrête de l'adorer. » Pourquoi toi, quand tu parlais mal, tu adorais pas le diable et moi, quand je parle de bien, j'adore. L'ennemi nous a enfermés. L'ennemi nous a aveuglés. Et on a honte de parler de ce qui est bon. Et on n'a plus honte de parler de ce qui est mauvais. C'est ça, le manque d'assurance. Nous voulons être dans l'assurance des bonnes choses, des choses que Dieu fait. Oui, célèbre. S'il y a eu des baptêmes, va, raconte. Raconte comment Dieu a changé Emmanuel. Raconte comment Dieu a changé Gaël. Raconte, raconte avec assurance. Et tu vas voir s'il n'y aura pas de percée. Mais si tu commences à dire, oh non, on ne va pas redonner gloire, on ne va pas élever la chair. Hein? C'est quoi ça, élever la chair? C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il ne faut pas, surtout pas trop battre les mains. Le problème, et je pense à quelque chose, et une fois on m'avait honoré dans cette salle, et bien sûr je ne parle pas là de chercher l'honneur et de manipuler les gens. Enfin, je suis le pasteur, honorez-moi, applaudissez-moi. Mais quand les gens le font spontanément, et quelqu'un était un nouveau et avait vu ça, c'est pour nos 2 ans je crois, la personne me dit, ouais quand même, j'ai eu peur pour ton orgueil. Vous savez quoi? Le problème c'est que quand on critique un pasteur ou un leader, qui que ce soit, on n'a pas peur pour son humilité. Mais dès qu'on parle du bien de quelqu'un, on a peur pour son orgueil. Jésus n'a pas... Quand on regarde la parole de Dieu, Jésus n'a pas peur de tout ça, les amis. En fait, on a fait du bien l'ennemi. On a fait de l'honneur l'ennemi. On a fait de la gloire l'ennemi. Oh, je lisais un texte, on en parlait avec Pasteur Mathieu. Je lisais un texte, la Bible déclare qu'il m'a fait de peu inférieur aux anges. David le dit. Qu'il nous a fait de peu inférieur aux anges. Va dire ça à quelqu'un. Ouh! Mais c'est ça le problème. Et l'assurance, pas ta clé. On dit, oh, c'est... Mais par contre, tu dis à quelqu'un, je suis misérable, je suis un pécheur. Je ne vois rien. Je suis avec toi, frère. On a la compassion pour celui qui est comme ça. Et pour celui qui est sûr, on a le doigt pointé. Va te repentir. Alors que celui qui est comme ça, c'est lui qui va chasser les démons. Ce n'est pas celui qui dit... Ah, ce n'est pas pour moi, en fait. C'est pour quelqu'un d'autre, le démon. Non, je ne sais pas. Vous savez, l'assurance n'a pas peur du démoniaque. Donc, l'ennemi ne veut pas qu'on ait de l'assurance, comme ça, il s'installe tranquille chez nous. La réalité, c'est ça. La réalité, elle est là, les amis. Dernier point, ça a mis 0, mon chrono. Dernier point, nous manquons d'assurance, nous manquons de secours, pardon, parce que nous manquons d'assurance. Et rapidement, j'ai oublié quelque chose. Je pense notamment à ceux qui sont engagés pour la première fois, enfin qui sont engagés par les autres baptêmes. On parle de quoi? L'assurance du salut pour quelqu'un qui vient à Christ. L'assurance, rien que la base. Une des premières choses qu'on veut que ce soit clair, si tu as reçu Jésus, tu es sauvé. On parle de l'assurance du salut. Et quand ça s'est attaqué, c'est compliqué. Donc même dès la base, il y a une assurance. L'assurance du salut. Et ensuite, on grandit, même il y a l'assurance qui va nous donner, qui va permettre le secours, parce qu'il nous a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu est en train de dire, quand tu t'approches avec assurance, oui, tu vas avoir la faveur, mais en plus de ça, tu pourras être secouru. La Bible déclare pour être secouru, et le mot secouru là, pour faire rapidement court, c'est un mot militaire qui parle de quelqu'un, d'un soldat qui est comme attaqué et un autre soldat va aller le secourir rapidement. Comprenez-moi bien, quand tu as l'assurance, les anges n'ont pas honte de marcher avec toi. Quand tu n'as pas d'assurance, tes anges sont au chômage. Mais vrai, on peut rigoler, hein. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont... Ils s'ennuient. Tu n'utilises pas ton autorité. Tu demandes à ce que tu attends que tu sois à l'église, tu demandes à ce que ce soit un pasteur, tu demandes à ce que... C'est jamais toi. Tu n'es jamais apte à prier pour quelqu'un. Tu n'es jamais apte à témoigner. Tu n'es jamais apte à faire un pas de foi. Tu n'es jamais apte à faire ceci. Mais tes anges sont au chômage, ils ne font rien. Mais tu es secouru. Il y a une intervention divine. Il y a des anges qui sont relâchés parce que tu sais en qui tu crois. C'est ça. Et je parle de la spiritualité, je parle de cette assurance christique. Ce n'est pas l'assurance en Romorik Ganga, mais c'est une assurance en Christ qui te dit et que les anges peuvent être libérés. Je prie et je relâche ce matin même que parce que tu auras de l'assurance, parce que tu pourras regarder l'ennemi en face, les anges qui sont avec toi, les anges qui travaillent avec toi, ils vont pouvoir aller là où tu n'osais pas. Ils vont pouvoir déloger les choses que tu n'osais pas faire au nom de Jésus. Et ce matin, je pensais à ces apôtres qui étaient avec Jésus. À un moment donné, ils sont envoyés. Jésus n'est pas avec eux. Ils sont envoyés. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Ils sont juste envoyés. Ils sont envoyés, mais parce qu'ils sont envoyés par Jésus. Ils reviennent. Ils disent, même les démons nous obéissent. Nous avons chassé en ton nom. Et Jésus va dire quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Et plus rien ne pourra vous nuire. Et il va dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et nous, Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, moi, quand un jeune me dit « je suis baptisé du Saint-Esprit », je dis un jeune souvent parce qu'il revient des camps, « baptisé du Saint-Esprit », mais que la variation, non, « baptisé du Saint-Esprit », tu as l'assurance. La première marque du baptême du Saint-Esprit pour moi, c'est l'assurance. Ils étaient enfermés, ils n'osaient rien. Le Saint-Esprit est venu, ils sont sortis. Je dis que tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Je dis, si tu es un prophète, tu vas le voir. Si je dis que si tu as un ministère, tu vas le dire. Je dis que si tu as un appel, tu vas aller voir tes pasteurs, tu vas dire j'ai un appel. Aujourd'hui, on a même dit, et je demande pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les paroles que j'ai relâchées dans l'esprit. Quand j'ai dit à des jeunes, calme-toi, j'annule cela dans le nom de Jésus. Maintenant, lorsqu'un jeune, un moins jeune, vient me dire, Dieu m'a parlé, j'ai un appel, j'ai pas envie de l'écraser parce que c'est diabolique. On a trop tué l'assurance. Aujourd'hui, on a des jeunes, des moins jeunes qui disent j'ai un appel. Même pas d'assurance. Il faut gratter. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais arrêter mon message. Ce matin, je veux que tu sortes de ce lieu. Ce n'est pas un message juste pour... Pour un nouveau mot. Et on en parlait avec le prophète Matthieu. On entend des messages. Si vous appliquez les deux derniers messages sur servir le vrai Dieu, on arrête de prêcher et on a fond. Si vous sortez de ce lieu avec ce message, là, j'ai de l'assurance. On arrête de prêcher, le visage de l'Église change. Alors, mon but ce matin, et on va faire l'appel différemment, même avec le. Vous n'allez pas venir sur deux mains, j'avais vraiment cette image. De là où vous êtes, vous allez crier à Dieu, vous allez pleurer, vous allez déclarer à travers ces chants. Il n'y a pas un appel sur le devant, ce n'est pas moi. Mais c'est vous qui allez être devant Dieu. Seigneur, j'ai l'assurance, change-moi. Et si j'aime m'habiller, dimanche prochain, je viens en costard, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Et les gars mettaient des beaux vêtements pour le roi des rois. J'ai pas honte de ce qu'on va penser. Si je suis plutôt expressive et que pendant longtemps on m'a dit tais-toi, je demande pardon à toutes ces personnes qui ont changé ta personnalité. Et je prie que tu acceptes qui tu es. Bien sûr, les choses doivent se faire avec hors des bienséances. mais retrouve qui tu es en Christ, s'il te plaît. Et de là où tu es ce matin, il y a des percées qui ne sont pas loin. Il y a des percées qui ne sont pas loin. Si tu as reçu un appel, tu n'oses pas en parler. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ce matin, non. Je refuse cette intimidation. J'ai l'image en ce moment même d'un père qui a peut-être dit des paroles dans ta vie. Quelqu'un de proche en tout cas. Et la voix de cette personne est devenue plus forte que la voix de la parole de Dieu. Ce matin, tu dis non. Maintenant, je prends ma responsabilité. Je prends mon assurance. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Et je veux commencer à me positionner spirituellement.